Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Après 47 ans d'une relation chaotique et 3 ans et demi de déchirement, ce matin, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Reportage à suivre à Londres dans ce journal. Ce départ est un choc, c'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, a déclaré hier soir Emmanuel Macron dans une allocution télévisée.
4 jours après la présentation du plan de paix de Donald Trump, la Ligue arabe tient aujourd'hui une réunion extraordinaire au Caire.
Oui, réunion à la demande du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui a catégoriquement rejeté ce plan américain, ce plan qui prône notamment de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible de l'État israélien et propose la ville d'Abu Dis comme capitale aux Palestiniens. Reportage à suivre.
Et nous y reviendrons bien entendu avec notre invité après ce journal, Sophie, l'écrivain, diplomate, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar. Sinon, après un avis sévère sur le projet de loi de réforme des retraites et son étude d'impact, le Conseil d'État a désavoué hier le gouvernement sur la circulaire Castaner.
Mais l'opposition contestait ce texte du ministre de l'Intérieur qui demandait au préfet de ne pas attribuer de nuances politiques pour les communes de moins de 9000 habitants. Analyse à suivre avec le politologue Pascal Perrineau. Et puis c'était une grande dame de la littérature populaire, la romancière Mary Higgins Clark s'est éteinte à l'âge de 92 ans. La reine du suspense avait signé plus de 50 best-sellers. Nous dresserons son portrait. Le Royaume-Uni a donc tourné la page de l'Union européenne après 47 ans d'adhésion. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées, notamment hier soir aux abords du Parlement britannique à Londres, pour célébrer cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Reportage d'Isabelle Labéry.
Yes! I'm ecstatic today. Freedom from the European Union.
Ils sont libres et comme l'europhobe Nigel Farage le répète à la tribune, ils viennent de vivre le moment le plus important de l'histoire moderne de leur pays.
The greatest moment in the modern history of our great nation. Thank you.
Et pourtant, ça ne colle pas. La cérémonie tient plus de la fête de village que de la célébration nationale. Les coups de cloche de Big Ben sont en réalité un enregistrement. Et pour couronner le tout, la pelouse s'est transformée en terrain de boue.
A little bit nervous.
Hélène se sent un peu nerveuse, car ce 31 janvier, dit-elle, ce n'est que le début de l'histoire. Tout reste à écrire dans la nouvelle relation qu'entretiendront Londres et Bruxelles, notamment en matière de commerce.
With the politicians.
Sur la place, deux amis trinquent au mousseux et se demandent quel pays européen demain osera emboîter le pas au Royaume-Uni.
La tristesse, en revanche, en Écosse, à Édimbourg, hier soir, lors du rassemblement, l'Écosse, où 62% des votants avaient dit non au Brexit. Hier soir, dans une allocution, Emmanuel Macron a appelé à une réforme en profondeur de l'Europe pour la rendre plus souveraine, plus démocratique. Il a dénoncé ceux qui ont permis ce Brexit.
Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. Car en effet, pour la première fois en 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. Je ne veux pas revenir ce soir sur les raisons de ce vote, et ce n'est d'ailleurs pas ma place ou mon rôle, mais je me souviens combien la campagne de 2016 a été faite de mensonges, d'exagérations, de simplification, de chèques qu'on a promis et qui n'arriveront jamais. Il faut là aussi, à chaque instant, nous souvenir de ce à quoi le mensonge peut conduire dans nos démocraties.
Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe face à la Chine et aux États-Unis pour défendre nos intérêts, explique Emmanuel Macron. Washington, qui s'est exprimé juste après minuit par la voix de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a promis dans un tweet de renforcer les relations déjà fortes avec son allié historique Londres. Le Brexit, vous en parliez tout à l'heure, Caroline, dans la fabrique médiatique, c'est un débat à retrouver sur franceculture.fr. Le coronavirus a fait 46 morts de plus en Chine, portant à 259 le nombre de décès liés à l'épidémie, selon les chiffres des autorités chinoises ce matin. Les États-Unis ont déclaré l'état d'urgence sanitaire et restreint l'accès à leur territoire aux étrangers ayant récemment voyagé en Chine. En France, les 180 personnes rapatriées hier de Chine ont passé leur première nuit dans un centre de vacances d'une station balnéaire proche de Marseille, où ces personnes devront rester confinées pendant 2 semaines en quarantaine. 2 des rapatriés qui présentaient des symptômes d'une infection au coronavirus ont été transportés vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Leur test s'est finalement révélé négatif, a annoncé hier soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn lors d'une conférence de presse. En France, 6 cas d'infection ont pour l'instant été détectés par les autorités.
Les dirigeants des pays membres de la Ligue arabe se réunissent au Caire pour répondre au plan de paix entre Israéliens et Palestiniens, un plan présenté par Donald Trump cette semaine.
Oui, ce plan est très favorable à Israël et il a provoqué la colère des Palestiniens. Parmi les points de crispation majeurs, il y a la proposition de déclarer Jérusalem capitale indivisible d'Israël. Pour les Palestiniens, Donald Trump propose une capitale à l'est de Jérusalem, dans la localité d'Abou Dis, en Cisjordanie, juste derrière le mur de béton édifié par Israël. Il promet d'y installer l'ambassade américaine une fois la ville désignée capitale. Notre correspondant Frédéric Mettezo s'est rendu à Abou Dis, qui n'a rien d'une capitale.
Appuyé sur sa canne, Adel Abou Salman se dépêche d'aller à la mosquée que borde le mur israélien noirci et recouvert de graffitis très politiques. Ce retraité de 64 ans montre Jérusalem du doigt.
C'est comme ça qu'ils présentent les choses, mais la vraie capitale de la Palestine, c'est Jérusalem. C'est à 3 km d'ici, j'avais l'habitude d'y aller en marchant.
Abou Dis est une ville morne et enclavée. Les rues sont étroites, il y a peu de restaurants, peu de commerces, mais des habitants charmants, peu habitués aux touristes et ravis de voir passer les journalistes depuis 3 jours. Souad travaille dans une librairie.
Jérusalem est une ville à portée religieuse. Il y a la mosquée à l'Aqsa. Ce n'est pas la solution que nous renoncions à Jérusalem. Nous voulons vivre en paix, mais il doit y avoir une autre solution que de renoncer à Jérusalem.
Ahmed Abou Hillel, le maire élu l'an passé, nous conduit sur un toit. Derrière le mur, la vue sur Jérusalem et son dôme doré est époustouflante. Monsieur le maire aime sa ville, mais...
On n'a pas la place pour mettre une ambassade américaine à Abou Dis. Jérusalem, c'est la ligne rouge, c'est notre droit.
On aperçoit aussi un bâtiment cubique, couleur jaune pâle. Il est vide. Ce devait être le Parlement palestinien sous Yasser Arafat. Il n'a même pas été terminé. Abou Dis ne veut pas être capitale.
Abou Dis est à découvrir en texte et en photo sur notre site internet franceculture.fr. Bonjour Elias Sambar.
Bonjour.
Vous êtes l'invité des matins du samedi avec Caroline Brouet. Vous êtes écrivain, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous venez d'entendre ce reportage. Que pensez-vous de ce projet ?
Je pense qu'on est en train tout le temps de commenter un peu à côté des choses. Tout d'abord, ce projet n'est pas exclusivement le projet qui porterait sur Jérusalem, mais sur un ensemble de décisions toutes aussi difficiles à remplir que les autres. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que je pense depuis que Donald Trump a annoncé ce qu'il appelle son plan de paix, je pense beaucoup à une phrase d'Arthur Kessler, qui était très très loin d'être critique d'Israël, qui a même passé dans les années 30 un séjour dans ce qui était à l'époque un peu l'ancêtre des colonies, qui étaient des kibbutz et des moshavs, qui a même écrit un roman à la gloire de cette expérience qui s'appelait « La tour d'Ezra ». Et Kessler, qui était quand même un homme honnête, dit à cette phrase qui résume tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Kessler dit « En Palestine, un pays, pensez à la Grande-Bretagne, là, qui vient, l'Empire qui vient de sortir de l'Europe. En Palestine, un pays vient de donner à un autre le territoire d'un troisième. C'est exactement cela qui se passe. Ce qui est en jeu n'est pas simplement la capitale. Ce qui est en jeu n'est pas simplement les détails du plan que nous connaissions, ça fait des mois, qu'il y a des fuites, ou en tout cas des éléments qui sont communiqués l'un derrière l'autre. Ce qui est nouveau, c'est la légalisation du fait accompli. Nous étions déjà en système d'apartheid et maintenant, aux yeux de l'Amérique, le système d'apartheid est légal puisque l'Amérique elle-même a légiféré et décidé que c'était légal. C'est un projet entre Benjamin Netanyahou et Benjamin Netanyahou.
Merci Elias Sambar, vous restez avec nous bien sûr pour votre interview juste après ce journal.
France Culture 8h09, suite donc du journal de Sophie Delpont. C'est la deuxième fois en une semaine. Après un avis sévère sur le projet de loi de réforme des retraites et son étude d'impact, le Conseil d'État a désavoué hier le gouvernement, cette fois sur la circulaire Castaner.
Oui, l'opposition contestait cette circulaire du ministre de l'Intérieur sur l'attribution des nuances politiques aux seules communes de 9000 habitants et plus. La raison l'emporte, estime Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui la semaine dernière avait co-signé une tribune demandant au ministre de retirer sa circulaire.
Ces interventions du Conseil d'État sur le terrain juridique, sur le terrain des principes, met toujours, au fond, parfois une certaine impréparation des textes qui sont présentés par le gouvernement. Peut-être, en effet, que ces textes sont faits dans la hâte. Et là, le Conseil d'État l'avait dit, d'ailleurs, sur l'avis qu'il a rendu sur la réforme des retraites. Il disait en effet qu'il n'avait, lui, même pas eu le temps d'assurer la stabilité juridique du texte. Et là, on voit bien que sur cette affaire de la circulaire Castaner, il y a eu certainement un empalement, une hâte, et espérons qu'il n'y avait pas une volonté un peu de changer le profil des résultats le soir des élections municipales.
Le politologue Pascal Perrineau répondait à Pierre Neveu. Sarah Abitbol a rejeté hier les excuses formulées par son ancien entraîneur, Gilles Beyer. Dans une déclaration à l'AFP, il reconnaissait des relations intimes et inappropriées, selon ses mots. Alors que l'ancienne championne de patinage artistique l'accuse de viol et d'agression sexuelle quand elle avait 15 ans, des faits qu'elle raconte dans son livre « Ainsi long silence » paru ce jeudi. Les femmes dans le sport sont à l'honneur tout ce week-end. Coup de projecteur ce matin sur les femmes arbitres féminines, donc de football. En France, Stéphanie Frappard est arbitre internationale. Elle a été élue l'an dernier meilleure arbitre féminine du monde. Mais elles sont encore peu nombreuses à lui emboîter le pas, Cédric Guillou.
Seulement 4% de femmes sont arbitres dans le milieu du football en France aujourd'hui. La Coupe du Monde féminine a boosté le nombre de joueuses, d'éducatrices, mais pas forcément donc d'arbitres féminines. Stéphanie Frappard, la plus connue d'entre elles, a son idée sur le sujet.
L'explication, moi je pense qu'elle vient que plus on aura de joueuses, plus on aura de dirigeantes et plus on aura d'arbitres. Donc forcément, la première étape c'était d'avoir plus de joueuses. On a plus de dirigeantes et maintenant on commence à avoir plus d'arbitres. On a commencé là en moins d'un an et demi, de 700 à 1000. Donc voilà, c'est une vraie progression. Par contre, il faut se donner un peu de temps, donc tout va bientôt arriver.
Patience donc et persévérance également, car se lancer dans le monde de l'arbitrage n'est pas forcément facile, rappelle Stéphanie Frappard.
La place de l'arbitre dans le foot, voilà, a toujours été un peu compliquée. C'est celui un peu sur lequel on s'acharne un peu plus. Donc forcément, quand on est joueur de l'extérieur, quand le dirigeant il râle toujours après l'arbitre, bah forcément, quand on est joueur, on n'a pas envie de passer la barrière.
Lucie Blancal, elle l'a passé la barrière en septembre 2017, et alors qu'elle n'avait jamais joué au football, elle a en revanche fait 16 ans de danse, Lucie décide de se lancer dans l'arbitrage.
Après quelques hésitations, puisqu'un jour j'ai fini par recevoir le dossier d'inscription par mail, que j'ai rempli et je me suis lancée dans l'aventure.
Lucie Blancal a très vite réussi à trouver la bonne tonalité, major de sa promotion, cette avocate en fiscalité la semaine fait donc depuis plus de 2 ans maintenant respecter d'autres lois, celles du football le week-end. Elle siffle en Ligue régionale d'Île-de-France, dirige aussi bien des femmes que des hommes et a évidemment comme modèle Stéphanie Frappard, heureuse aujourd'hui de susciter quelques vocations.
Il faut des exemples, il y a des modèles de joueuses. Bah maintenant, il y aura un modèle d'arbitre. Avoir ces modèles, ça peut aussi permettre de susciter des vocations.
Histoire que la place de l'arbitrage féminin dans le football soit un peu moins déséquilibrée qu'aujourd'hui.
La mort d'une grande dame de la littérature populaire. On a appris ce matin la disparition de Mary Higgins Clark à l'âge de 92 ans. Surnommée la reine du suspense, elle avait écrit plus de 50 best-sellers. Parmi ses titres les plus célèbres, La nuit du renard ou encore Toi que j'aimais tant. À Washington, Grégory Phillips.
Mary Higgins Clark laisse une œuvre de 51 romans qui aux États-Unis se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Elle avait vu le jour dans le Bronx à New York en 1927, dans une famille modeste, et commence à écrire dès le plus jeune âge. Elle est un temps secrétaire, puis hôtesse de l'air, mais pour arrondir les fins de mois, Mary Higgins Clark écrit aussi un peu pour la radio américaine. Sa première nouvelle est publiée en 1956. Il lui faut attendre encore 15 ans pour que l'éditeur Simon & Schuster lui achète son premier roman, La Maison du Guet, à l'époque pour 3 500 $. Ce roman noir qui raconte l'assassinat de 2 enfants par leur mère a depuis été réimprimé plus de 75 fois. Ensuite, les best-sellers vont s'enchaîner au rythme de quasiment un par an. La Nuit du Renard, Douce Nuit, sa fille Carol Higgins Clark suivra la même voie et elles écriront un livre à 4 mains au début des années 2000. Mary Higgins Clark est morte hier à l'âge de 92 ans chez elle en Floride. D'où venait son goût pour le suspense et les meurtres? Celle qui, à l'âge de 32 ans, s'était retrouvée veuve avec 5 enfants, écrivait « Ne jugez jamais les gens, vous ne savez pas quel chagrin les déchire au fond d'eux-mêmes ».
Pourquoi fragiliser une maison en pleine santé? C'est le titre d'une nouvelle tribune contre le plan d'économie à Radio France, publiée hier dans le journal Libération, signée par des producteurs, journalistes, réalisateurs, techniciens, documentaristes et membres du personnel notamment, adressée au ministre de la Culture, Franck Riester, alors que la CGT a reconduit hier son appel à la grève jusqu'à lundi, au 60e jour du mouvement. La pétition en ligne intitulée « La radio publique en danger » a recueilli près de 200 000 signatures. La météo, de la pluie presque partout aujourd'hui, du soleil seulement vent sur les côtes de l'Atlantique, de La Rochelle à Biarritz et le long de la Méditerranée. Les températures sont très douces, en grande majorité au-dessus de 10 degrés, avec 4 degrés ce matin à Annecy, 10 degrés à Lyon et Bordeaux, 13 à Paris et jusqu'à 14 degrés pour Ajaccio.